Si l'on dit que la forme homme a apparu sur la disparition de la forme Dieu, parce que le composé des forces avait changé. Si l'on dit ça, on dira donc que la forme homme implique, enveloppe la mort de Dieu. Mais voilà. Voilà, on l'avait vu la dernière fois, et je voudrais encore une fois un peu insister là-dessus. Mais il suffit de considérer la forme homme pour voir qu'elle enveloppe elle-même. Dans ses plis, elle enveloppe elle-même la mort de l'homme. La forme homme, elle est d'autant plus précaire qu'elle est entre deux morts. La mort de Dieu et la mort de l'homme. Et je vous disais, c'est évident. C'est évident pourquoi. Encore une fois, c'est un très mauvais schéma historique du point de vue de l'histoire de la pensée. Que parler de la mort de Dieu et puis du surgissement de l'homme. Remplacement d'une forme homme par la forme Dieu. L'inverse. Vous corrigez de vous-même. Je vous disais, s'il y a une chose évidente chez Nietzsche, c'est que ce n'est pas le penseur de la mort de Dieu. Pourquoi ? Et encore une fois, et là, pour ceux qui disent Nietzsche, je vous supplie d'y penser, ne me donnez pas raison forcément, mais attachez, considérez au moins ce que je dis. Et c'est évident, la mort de Dieu, mais au moment où Nietzsche écrit, mais c'est une vieille histoire. C'est acquis. C'est un lieu commun. Alors il faut faire confiance aux penseurs, ils ne reprennent pas quand même des lieux communs. Celui qui a vraiment porté l'idée de la mort de Dieu et de son remplacement par l'homme, c'est-à-dire celui qui a fait la substitution des formes, c'est Feuerbach. Mais c'était préparé déjà par Hegel. C'est la gauche hegelienne qui fait le remplacement de la forme Dieu par la forme homme. Et chez Feuerbach, si je voulais résumer le livre de Feuerbach, l'essence du christianisme, avec évidemment des mots qu'il n'emploie pas, mais ça répond au moins à sa pensée, je dirais, la thèse de Feuerbach dans l'essence du christianisme, c'est puisque Dieu a déplié l'homme, il est temps que l'homme plie et replie Dieu. Il est temps que la forme homme récupère. Il est temps que l'homme récupère ses propres forces, qu'il a élevées à l'infini dans la forme Dieu. Il est temps qu'il se les réapproprie sur fond de sa propre finitude, c'est-à-dire substitution d'une forme homme à la forme Dieu. Mais Nietzsche, si j'ose dire vulgairement, il s'en tape complètement de cette affaire. La mort de Dieu, vous comprenez ? Mais je dis à la lettre, parce que j'ai le sentiment que j'ai raison, là. Ça le fait rire. C'est pour ça qu'il nous donne des versions comiques. C'est comme plus un fait est vieux, plus on peut varier les variantes. Plus on peut donner des variantes. Une légende, elle a des variantes, ça s'est passé il y a si longtemps. Tu veux une variante, t'en veux une autre, t'en auras. C'est exactement ça, Nietzsche, par rapport à la mort de Dieu. Vous voulez des variantes? Eh bien, je vais vous en raconter. Vous voulez savoir comment il est mort? 1, 2, 3, 4, 5, 12 versions de la mort de Dieu. Comme ça, ça fait le compte. On n'en parle plus. Et pourquoi Nietzsche est comme ça? C'est un contresens fondamental, historique et philosophique de présenter Nietzsche comme le penseur de la mort de Dieu. En revanche, il est juste, et je crois que c'est sa grandeur, c'est le premier avoir annoncé la mort de l'homme. Pourquoi ? Parce que pour Nietzsche, La mort de Dieu n'est pas un événement. Ou du moins, c'est un vieil événement. Si vieux qu'il faut même plus en parler. En revanche, ce qui reste vivant, pour Nietzsche, c'est la manière inévitable dont la mort de Dieu doit s'enchaîner avec la mort de l'homme en un seul et même événement qui aura des suites. Nietzsche ne pense pas à la mort de Dieu, il pense l'enchaînement d'une mort de Dieu acquise avec une mort de l'homme en train de se faire en un seul événement qui doit avoir des suites à venir. Et qu'est-ce que c'est que ces suites à venir ? On le sait, on a commencé à le voir la dernière fois, c'est le surgissement, l'avènement de la troisième forme, à savoir non plus la forme Dieu ni la forme homme, mais la forme surhomme. Bon, comprenez, si vous comprenez quelque chose de ce qu'on est en train de dire, vous comprenez que la forme surhomme, encore une fois, c'est pas une bête, un animal autre que l'homme, c'est simplement le produit d'une nouvelle combinaison des forces dans l'homme avec de nouvelles formes du dehors. C'est pour ça qu'il n'y a pas de quoi en faire une maladie avec le surhomme. C'est tout simple, le surhomme. Tout simple. Puis tout n'est pas bon dans le surhomme. Il y a du chien dent aussi. On va voir pourquoi. C'est pas réglé. Mais, de même que dans la forme Dieu, vous deviez repérer les forces dans l'homme qui se composaient avec des forces d'élévation à l'infini, de même dans la forme homme, vous repériez les forces dans l'homme qui se combinaient avec les forces de finitude, dans la forme surhomme, vous repérez les forces dans l'homme qui se combinent avec une troisième espèce de force du dehors. De telle manière que en découle la forme surhomme. Mais je reviens à la question. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pourquoi la forme homme comprenait-elle déjà la mort de l'homme ? Pour trois raisons. L'une, la première, je cherche un texte. La première, elle apparaît très nettement chez Nietzsche, dans les textes posthumes surtout. Elle a été merveilleusement dégagée par Klossowski dans son livre sur Nietzsche et le cercle vicieux. Elle revient à dire le principe d'identité ne peut pas fonctionner indépendamment d'une garantie ou d'un fondement qui est Dieu. Je résume beaucoup le thème de Klossowski et la manière dont il l'inscrit dans la pensée de Nietzsche. Le principe d'identité renvoie un fondement, un garant de l'identité qui est Dieu. La mort de Dieu implique l'écroulement des clés du principe d'identité. En d'autres termes, Dieu mort, l'homme perd toute identité. C'est un thème intéressant. Je crois qu'en effet, il est très profond chez Nietzsche, ce rapport entre Dieu et l'identité. Et la perte d'identité avec la mort de Dieu, c'est un thème... mais je développe. Vous trouverez ça tout à fait dans Klossowski. Il y a une seconde raison pour laquelle la forme homme inscrit la mort dans l'homme même. C'est ce que j'ai essayé de dire plusieurs fois, et là que je voudrais dire mieux, dans l'espoir que vous lisiez un grand texte, encore un grand texte du 19e. C'est que, bien sûr, le 17e siècle, l'âge classique, je le disais, n'ignore pas la mort et le rapport de l'homme avec la mort. Mais sous quelle forme est-ce que l'âge classique reconnaît cette question de la mort dans l'homme? Je crois qu'il le reconnaît d'un certain point de vue, qui est celui de l'essence. L'homme est mortel. Et quant à l'existence, je vous disais, il le reconnaît sous la forme d'une espèce de puissance indivisible, insécable, instantanée de la mort. La mort appartient à l'essence de l'homme sous la forme « l'homme est mortel » et survient à l'existence en un point insécable, indivisible, instantané. C'est ça la conception de la mort. Et voilà pourquoi le XVIIe siècle est encore plein de ce qui avait déjà encombré l'âge gréco-romain, à savoir des consolations de la mort. Si la mort dans l'existant est ce point insécable, indivisible, etc., ben la mort se dérobe à la pensée, dans la mesure où tant qu'on n'est pas mort, voilà. Et puis une fois qu'on est mort, bon. Mais entre les deux, le moment de la mort, il est précisément indissociable. En quel sens? Je vous disais, une phrase comme celle de Malraux, qui a tellement plu à Sartre, que Sartre reprend. Là aussi, ce n'est pas du tout des critiques ce que je fais. La mort, c'est ce qui transforme la vie en destin. À mon avis, alors pour parler comme Foucault, appartient typiquement au sol archéologique classique du XVIIe siècle. C'est curieux parce qu'elle a beaucoup frappé les modernes. Hein. Mais elle me paraît réaliser pleinement la conception classique de la mort. La mort, instant indivisible, insécable, qui au moment où il surgit, entraîne une transmutation, une transformation qualitative de la vie en destin. Tout à fait. C'est même un des grands thèmes des consolations, déjà à l'âge des Grecs. On nous dit, vous ne pouvez pas dire qu'un homme est heureux avant sa mort. Pourquoi? Parce que jusqu'à sa mort, tout peut changer. Tout peut changer. Il soit heureux, mais il peut lui arriver quelque chose qui rejaillit sur le passé et qui fait que sa vie n'aura été qu'erreur, précipitation vers ce malheur ultime. Vous ne pouvez dire, et vous ne pouvez dire une vie a été heureuse, que quand la mort a lieu, ou a eu lieu, en d'autres termes, elle transforme la vie en destin. Or, je dirais presque, là alors il s'agit de... Je constate d'abord une constatation, c'est que dans Naissance de la clinique, Foucault analyse la pensée d'un grand médecin du 19e, Bichat. Et de l'analyse de Bichat dans Naissance de la clinique, je dirais un peu ce que je viens de dire pour le texte sur Cuvier. Ça a l'air d'un texte épistémologique. Foucault nous expose la conception de la mort et de la vie chez Bichat. Mais si vous êtes sensible au ton et au style, je crois que rien ne peut nous empêcher de sentir que, sous le prétexte de Bichat, il y a quelque chose d'autre, et que Foucault aussi ne se contente pas de parler de Bichat, mais parle pour son compte. Et pourquoi? C'est que si à mon tour je parle de Foucault et que j'essaie aussi de parler pour mon compte, je dirais que pour moi, le livre de Bichat, Recherche physiologique sur la vie et la mort, c'est le premier livre moderne sur la mort. Pour une fois, je ne dis pas que moderne, ça vaut mieux que classique. Je dis, c'est pas pareil. C'est vraiment le premier grand énoncé, par là c'est un livre de philosophie et pas seulement un livre de médecine, c'est le premier grand énoncé qui exprime un changement profond dans la conception médicale et philosophique de la mort. Une mort moderne, enfin, vous le trouvez chez Bichat, dans ce livre étonnant. Or, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ça me prendrait là, toute une séance de parler de ce livre de Bichat. Je marque juste quelques points forts. Il nous dit que la vie a deux aspects. Voilà, premier point fort. La vie a deux aspects. Vie organique et vie animale. Et il définit les deux, je voudrais que vous ayez envie, ou que certains d'entre vous aient envie d'aller voir ce livre, tellement il y a des formules qui, en effet, annoncent notre âge. Comment est-ce qu'il distingue la vie organique et la vie animale ? D'une manière très simple, il dit en gros, comme je crois. La vie organique consiste à exister au-dedans. Ou si vous préférez, à habiter un lieu, et les communes à l'animal et à la plante. Dans ma vie organique, j'habite un lieu et j'existe au-dedans de moi-même. Dans ma vie proprement animale, qu'est-ce que c'est ? J'habite le monde. Là, je cite Bichat textuellement. Habiter le monde et non plus habiter un lieu. J'habite le monde et j'existe hors de moi. Le centre de la vie animale, c'est le système nerveux. Voilà. Premier point fort. Deuxième point fort. La vie organique est douée de continuité. C'est drôle, parce que j'aurais presque envie de traduire. C'est ça que l'âge classique a saisi avant tout. La vie organique. La vie organique est douée de continuité, elle est continue, mais la vie animale est étrangement intermittente. Et Bichat a des pages splendides qui préfigurent là, des découvertes, il me semble, très postérieures à lui, sur la multiplicité des sommeils, sur les sommeils partiels. Il dit l'animal ne cesse d'être traversé de sommeil partiel. Et ce qu'on appelle le sommeil quand on dort, c'est une résultante des sommeils partiels. Mais il y a toutes sortes de sommeils qui traversent l'animal. Et son sommeil à proprement parler, c'est une résultante de tous ces sommeils partiels. En d'autres termes, la vie animale, elle ne cesse d'être intermittente, traversée de sommeil. Et dans le sommeil, nous sommes rendus à l'unique et seule vie organique. Troisième point. Il faut distinguer deux types de morts. Cette fois, c'est plus la mort organique et la mort animale. Vous allez voir, ça se complique. Ce troisième point, c'est les deux types de morts qu'il faut distinguer. C'est la mort naturelle et la mort violente. À ma connaissance, c'est le premier auteur qui fasse une différence de nature entre les deux morts et qui fasse passer l'homme sous le régime de la mort violente. Ce qui est très, très curieux. Car il y a un texte, alors dans Bichat, il y a un texte que je ne m'explique pas, dans ce livre splendide, il y a un texte que je ne m'explique pas. Il dit, je vous assure, je l'ai bien lu, c'est un livre que j'aime, alors je l'ai lu, je l'ai relu, et pourtant je n'arrive pas à comprendre. Et c'est tellement gros. Il nous dit, vous comprenez, les animaux, ils ont le plus souvent, leur mort est une mort naturelle à l'issue de la vieillesse. Alors, là, je dis, je ne comprends pas comme tout le monde. On a envie de dire, ben, quand même, les animaux, ils se dévorent, ils cessent de se dévorer. C'est rare, au contraire, sauf dans, s'ils ne sont pas dévorés, les animaux à la ferme, ils sont abattus par l'homme. Mais enfin, dans la nature, ça ne va pas mieux. Alors, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire? En même temps, présenter ça comme une objection, j'en rougis d'avance, parce que ça consisterait à dire que Micha est vraiment un idiot, quoi, de ne pas avoir pensé à ça. Alors je me dis, et c'est ma curiosité, une fois dit que ça va de soi, qu'il n'y aurait pas que les animaux se mangent les uns les autres, qu'est-ce qui lui fait dire? D'une certaine manière, ça ne fait rien, les morts de l'animal sont des morts naturelles. C'est très très bizarre, je comprends. Sauf quelque chose qui est une très belle idée. Et son idée, c'est finalement, elle est étonnante. C'est que c'est la faute de la société. La mort violente, c'est la société. Et pourquoi c'est la société? Il ne tombe pas dans les facilités du type le crime, l'insécurité. C'est pas ça. Il veut dire, vous savez, la société, elle use beaucoup notre vie animale. Elle use énormément notre vie animale parce qu'elle la sollicite tellement. Elle nous fait tellement bouger. Elle nous flanque des excitations coup sur coup, comme ça. Bien pire que dans la nature. Si bien que dans la nature, la vie animale peut durer, au moins en droit, peut durer beaucoup plus longtemps. Là encore, j'ai des doutes quand on voit un pauvre lapin, par exemple, qui ne cesse pas, même quand il s'arrête, qui prend un moment de repos et qui ne cesse pas d'être aux aguets, on se dit, est-ce que c'est vraiment le repos? Enfin, c'est vrai, moi je me dis, il n'a pas tort non plus, il faut penser, il ne savait pas, lui, mais bon, l'agression sociale, terrible. Les gens qui parlent trop, quand ils parlent trop, c'est une agression, ça. Si on va se reposer, les néons, vous ne connaissez pas Bichat, les néons, c'est une agression oculaire quand même, les néons. La télé, c'est une agression, ça c'est une pure agression. Vous me direz, tout ça. C'est vrai que la société, elle use ma vie animale. Vous voyez, il ne définira pas une sphère de la vie supplémentaire, la vie sociale, Bichat, il est bien trop malin. Il dit, la société, c'est une accélération. C'est une accélération de toutes les fonctions de la vie animale. Or, la vie animale, c'est au contraire une vie qui a très besoin d'intermittence, qui a très besoin de repos, qui a très besoin de ses sommeils partiels. Mais nous, on ne sait plus, on a un gros sommeil, et encore, malsain. Mais on n'a plus ces sommeils partiels. Faut toujours nos organes d'essence, ils sont tout le temps investis par une source quelconque. Bon, c'est ça qu'il veut dire. Alors comme notre vie animale est tellement usée sur un rythme très rapide, alors évidemment, le régime de notre mort tend de plus en plus à devenir la mort violente. C'est une idée très très religieuse. C'est l'acte, il me semble, c'est l'acte d'entrée de la mort moderne sur la scène de la pensée. Ne passez plus devant l'hôpital Bichat sans avoir une pensée émue pour un si grand penseur. Mais c'est un livre étonnant. Et alors, j'ajoute le dernier point fort, il va expliquer comment, puisqu'il y a deux sortes de morts, mort naturelle et mort violente, dans les deux cas, la vie animale et la vie organique ne s'évanouissent pas, ne disparaissent pas de la même façon. Vous voyez. Donc il a une double grille, si j'essaie de dégager une espèce de structure logique, distinction de la vie organique et de la vie animale, et d'autre part, distinction de la mort violente et de la mort naturelle, étant dit que dans les deux morts, violente et naturelle, la fin de la vie organique et de la vie animale ne se passe pas de la même façon ni dans le même rapport. Mais donc, n'ayant pas le temps de développer tout ça, peut-être que je le ferai si on a le temps, si on a fini Foucault à temps, je reviendrai sur Foucault et Heidegger, Foucault et Bichat, Foucault, etc. Comme ça sera parfait. Foucault et Nietzsche. Eh bien, je dis dernier point très fort de la cause de Bichat, c'est que dès lors, comment est-ce qu'il renverse complètement la conception? Comment est-ce qu'il renverse la conception de la mort classique? Je dis de trois manières. Première manière, l'idée que, de même que des sommeils partiels, l'animal ne cesse, l'animal humain ne cesse de passer par des morts partielles. Il y a un pluralisme des morts qui s'oppose tout à fait à l'idée de la mort comme instant insécable, comme instant ultime. Pluralisme des morts. Et toute la fin du livre de Bichat consiste à étudier dans les morts violentes les trois types de morts. Mort pulmonaire, mort cardiaque, mort cérébrale, qui n'épuise pas la liste des morts, la liste des morts diverses, mais qui sont les trois grands centres mortels, poumon, cœur, cerveau. Donc ça, c'est le premier aspect, cette espèce de parcellisation de la mort. Deuxième point, la mort tout court sera une résultante de ces morts partielles. C'est au nom de cela qu'il peut poser une, comme dit Foucault, alors quand il analyse Bichat, une coextensivité de la vie et de la mort. Et donner sa grande définition de la mort, qui fait que les classiques se moquent de Bichat. Mais justement parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la définition. Ils n'appartiennent pas au même sens. La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Prenez pour un classique, c'est un non-sens. Puisque la mort ne peut se définir que par rapport à un vivant, on ne va pas définir la vie par rapport à la mort. Et tout le monde dit, c'est une formule stupide. Ça cesse d'être une formule stupide si vous la pensez. Si vous pensez la mort, non pas en termes d'instant qui termine la vie, mais en termes de force coextensive à la vie. D'où la formule de Foucault quand il commande Bichat, c'est un vitalisme sur fond de mortalisme. Donc, multiplicité des morts, premier principe. Deuxième principe, coextensivité de la mort à la vie. Et troisième principe, modèle de la mort violente. Et destitution du modèle de la mort naturelle. La mort violente, se définissant par ceci au plus simple, sous Bichat, c'est celle qui va du centre à la périphérie. En effet, vous savez que les ongles continuent à pousser après la mort. Les cheveux aussi, des processus d'excrétion, même de digestion, continuent à se faire, etc. La mort violente va du centre à la périphérie. Tandis que la mort naturelle va de la périphérie au centre. Enfin, vous trouvez tout ça. Donc, je peux dire, il m'en faut pas plus pour dire, oui. Voyez alors, bizarrement, Foucault, dans son compte-rendu de Bichat, dans Naissance de la clinique, ne s'intéresse pas tellement et signale, même je ne sais même plus s'il le signale, ce schéma très étonnant où la mort violente devient le modèle de la mort. En revanche, il insiste beaucoup sur la coextensivité de la vie et de la mort et sur le caractère pluriel des morts chez Bichat. Mais vraiment, je crois que si Foucault parle si bien de Bichat, c'est parce qu'il y reconnaît, quoi qu'il ne le dise pas, qu'il y reconnaît. La première, l'entrée dans la littérature médicale et philosophique de la nouvelle conception de la mort. Si bien que là aussi, lorsqu'on trouvera chez Foucault perpétuellement le thème que je traduis vaguement sous l'expression de le vivant comme être pour la mort, je crois que historiquement, dans la mesure où c'est mis au point au nom de l'intérêt, historiquement il serait faux de rattacher par là même Foucault à Heidegger, ou même à Blanchot. Je crois que la source de cette idée du vivant comme être pour la mort, elle est beaucoup plus dans un lien, dans une conception de la mort personnelle chez Foucault, et cette conception personnelle se fondant sur une espèce d'affinité profonde avec Bichat. Bon, bien. Et je dis troisième point, avant que nous nous reposions, troisième point pour laquelle la mort est inscrite dans l'homme, lorsque surgit la forme homme, si bien que la forme homme est fondamentalement précaire, je dirais même à la limite, elle ne sera même pas transformée, abattue du dehors. Elle est travaillée par une précarité fondamentale, essentielle, interne. C'est que, on l'a vu la dernière fois, c'est que la forme homme n'a pu surgir que dans la dispersion des langues du point de vue de la linguistique, la dissémination des vivants et de leur plan d'organisation du point de vue de la biologie, la disparité des modes de production du point de vue de l'économie politique. Et dans les mots et les choses, dans les chapitres sur l'homme, Foucault insiste énormément sur ce point, qui en effet est fondamental. Ça, je dirais que ce point n'a pas d'équivalent chez Nietzsche, ça c'est un point très propre à Foucault. Montrer que la forme homme au XIXe siècle ne s'est constituée que en rapport avec une triple dispersion. Dispersion des langues, dispersion des vivants, dispersion des modes de production. Et la linguistique ne se présente comme une science, c'est-à-dire, là, retenez bien, la linguistique ne considère le langage comme un objet que parce qu'il y a une dispersion des langues. La biologie ne peut considérer la vie comme un objet que parce qu'il y a une dispersion des plans d'organisation de la vie. L'économie politique ne peut penser le travail comme un objet que parce qu'il y a dispersion des modes de production. Partout, la dispersion des formations est la condition des nouvelles objectivités. D'où Foucault peut nous dire, à ce moment-là, je reprends les mots et les choses, page 291, toujours cette page qui me paraît si belle et si insolite, la critique de la connaissance, c'est l'ontologie de l'anéantissement des êtres. La critique de la connaissance, c'est l'ontologie de l'anéantissement des êtres. Le texte exact de Foucault, page 291, est celui-ci. L'ontologie de l'anéantissement des êtres vaut comme critique de la connaissance. Voyez pourquoi. La constitution des savoirs positifs au XIXe siècle. Là, le raisonnement est très pur. La constitution des savoirs positifs au XIXe siècle. Linguistique. Biologie, économie politique, des savoirs positifs sur l'homme, la constitution, si vous voulez, en gros, des sciences humaines, n'a pu découvrir son objet qu'à travers une dispersion fondamentale. Dispersion des langues, dispersion des modes de production. Dispersion des langues sans lesquelles jamais le langage n'aurait pu être traité comme objet. Dispersion des plans de vie sans lesquels jamais la vie n'aurait pu être traitée comme objet de science. Dispersion des modes de production sans lesquels jamais le travail n'aurait pu être traité comme objet de science. D'où la seule réflexion sur la connaissance est en même temps une ontologie de l'anéantissement des êtres. Pourquoi ? Il a bien fallu que des pans entiers et des plans entiers de vivants disparaissent. Il a bien fallu que des langues meurent. Il a bien fallu, en vertu de cette dispersion fondamentale comme condition des sciences, il a bien fallu que des langues disparaissent, il a fallu que des vivants s'écroulent, s'anéantissent. Il a fallu que des modes de production s'enfouissent. D'où l'archéologie, la paléontologie, et même on peut ajouter l'ethnologie vit sous cette prophétie. La seule critique de la connaissance est une ontologie de la disparition des êtres. Disparition des vivants dont il ne reste que des fossiles. C'est la grande époque de Cuvier. Disparition des langues dont il ne reste que des indices de racines. Non seulement les langues mortes, mais pire que mortes, les langues perdues. L'ethnologie, la découverte de génocides du type le génocide indien. Je veux dire, il n'y a pas lieu d'aller si loin que les fossiles. Partout, partout, les sciences de l'homme se sont constituées sur le mode d'une connaissance qui impliquait la dispersion et la disparition de plans d'organisation, de civilisation, de langue, etc. Au point que la seule critique de la connaissance, c'est l'ontologie de cette disparition des êtres. C'est cette ontologie de l'anéantissement. Là encore, qui fait partie d'un point de vue, évidemment, à mon avis, vitaliste, tout à fait opposé à Heidegger. Il ne s'agit plus du tout de fonder les êtres ou l'existant. Il s'agit d'une toute autre tâche. Il s'agit de révéler les formes dans leur précarité, dans leur dissémination. Et dès lors, la seule ontologie, c'est l'ontologie de l'anéantissement des êtres. La plus forte raison pour reprendre la question, bon, et ben, la forme homme de trois manières. Perte d'identité, inscription de la mort violente, dispersion de ses dimensions. De ces trois manières, la forme homme était précaire et fondamentalement précaire. Alors, encore une fois, est-ce qu'il faut la pleurer ? On peut toujours la maintenir, hein ? On peut toujours faire avec. Mais de plus en plus, les événements qui se passent ne passent plus par là. Est-ce qu'il faut la pleurer ? Encore une fois, prenons la question, est-ce qu'elle a été bonne ? Au sens où Nietzsche dit « par-delà le bien et le mal » ne veut pas dire « par-delà le bon et le mauvais ». Il y a du bon et il y a du mauvais. Eh bien, la forme Dieu. Avant de pleurer sur la mort de Dieu, à supposer que Dieu soit mort, ce dont on doute quand même. Mais enfin, la forme est morte, vous comprenez ? Ce n'est pas la question Dieu, ce n'est pas la question l'homme, c'est la question la forme Dieu, la forme homme. Eh bien, avant de pleurer là-dessus, il faut se demander si ça a été bien bon, tout ça. La forme Dieu, ce n'était pas la fête, hein ? Quand les gens, ils pleurent la mort de Dieu, mais... Oui, mais le prof. Et la forme homme. Voilà presque la question qui naît. Est-ce que la forme homme a été pour la vie, enchaînons, est-ce qu'elle a été pour la vie, le travail et le langage, une libération ? Ou est-ce que la forme homme a été une manière d'emprisonner la vie, le travail et le langage. Si la forme homme est une manière d'emprisonner la vie, le travail et le langage, il n'y aura pas de quoi pleurer qu'on nous propose une autre forme. Est-ce que la forme homme a au moins su garantir l'homme de la mort, l'homme existant de la mort violente? Oh non, jamais les hommes existants ne sont morts de mort violente autant sous la forme homme. Alors, oui, il faut dire, écoutez, non, d'accord les droits de l'homme, mais enfin, justement, ça a été plutôt une période... Alors si on nous annonce l'apparition d'une forme quelconque, d'une forme de pensée quelconque, quelle qu'elle soit, on aurait plutôt tendance à dire, ah ben oui, hein, ça ne peut pas être pire. Bien, seulement demander ça. Ça revient à dire, en effet, s'il est vrai que la forme homme a nourri toutes les morts violentes de l'homme existant, s'il est vrai que la forme homme a emprisonné la vie, le travail, le langage, y a-t-il en train de se dessiner, même en ébauche, y a-t-il une autre forme possible qui, elle, libérerait dans l'homme, je souligne toujours, c'est mon thème, les forces dans l'homme, qui libérerait dans l'homme la vie, le travail et le langage, et qui protégerait l'homme de toutes les morts violentes, l'homme existant, ou d'un certain nombre de morts violentes. Or, au point où on en est, c'est le dernier point que je vais aborder, ou réaborder, parce que je crois que c'est plus clair cette fois-ci, vous sentez ce que je voulais dire tout à l'heure par le surplis. Après l'âge du dépli, la forme Dieu, et l'âge du pli, la forme homme, nous appelons l'âge du surplis, dont dépendrait la forme surhomme, ça va de soi. Et là, alors, évidemment, encore une fois, si on ne veut pas tomber dans la bande dessinée, on la frôle, mais si on ne veut pas y tomber, il faut être très très discret. Il faut être très discret parce que, qu'est-ce qu'on peut le faire? Foucault le dit, page 397-398, des mots et les choses. Mais il nous dit, ben vous savez, hein, c'est pas facile tout ça. Il faut se contenter d'indications. Il dit, ben oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la mort de l'homme? Et il dit, bien sûr, ce sont là tout au plus des questions auxquelles il n'est pas possible de répondre. Et Nietzsche, il ne disait pas lourd sur le surhomme. Il faut les laisser en suspens, ces questions, là où elles se posent, en sachant seulement que la possibilité de les poser ouvre sans doute une pensée future. Bon, en d'autres termes, on peut donner des ébauches. Et des ébauches non fonctionnelles, exactement comme en embryologie. Une ébauche embryologique, elle n'est pas encore fonctionnelle. Un stade d'embryon, ce n'est pas encore fonctionnel. Bon, alors, il faut y aller, il faut prendre des risques. Qu'est-ce que ce serait le surplis? Ça revient à dire, encore une fois, et on avait bien avancé la dernière fois, mais là je voudrais aller un peu plus loin. Ça veut dire trois choses. Avec quelles nouvelles forces du dehors les forces dans l'homme entrent-elles en rapport? Deuxième question. Comment ce nouveau rapport de force ou ce nouveau composé renvoie à un troisième mouvement géologique qu'on peut appeler le surplis. Comment en découle cette forme nouvelle, nommée par Nietzsche surhomme, la forme surhomme, qui signifie en fait quelque chose d'extrêmement simple, très très simple, et dont, encore une fois, on ne peut pas dire que ce soit fameux. simplement, il y aura sûrement des potentialités qui n'étaient pas dans la forme homme. C'est évident qu'il y a des potentialités aujourd'hui qui ne sont pas comprises dans la forme homme. Bien, c'est ça qu'on va voir.